EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Moi, je suis allée, j'ai mangé un repas de Pessah avec des amis juifs. Mm-hmm. Ben, l'enfant, il est partout. Il y a deux choses qui ont caractérisé le repas, l'enfant et l'histoire. Mm-hmm. L'histoire et l'enfant. Et l'histoire, le storytelling, la vérité des histoires, c'est ça qui nous touche le plus. Regardez l'Ancien Testament, c'est rempli d'histoires. Et en fait, par exemple, l'enfant, il vient, il lit la Torah. C'est pas papa qui lit, c'est pas maman qui lit. C'est génial, ça. Mm-hmm. Au lieu de dire, hey, tais-toi, chute l'enfant là, tais-toi, va au coin là-bas. Les grands là, ils vont faire la chose importante, vous allez faire des bêtises. Regarde, prends ta tablette. L'inverse chez les Juifs, ils vont tout de suite mettre l'enfant au cœur de la foi.
Bonjour tout le monde, contente de pouvoir commencer cette nouvelle semaine avec vous dans À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons un homme comme invité. On essaye de pas le faire trop souvent, mais il est quand même spécial. Il est quand même spécial et ça va être une très belle émission ensemble. Et on va parler de la jeunesse ensemble parce que, en tant que parent, en tant que leader, en tant que pasteur et aussi en tant que jeune, eh ben, on peut voir que ça peut être un défi que les jeunes puissent rester attachés au Seigneur et aussi attachés à l'Église. Et en tant que parents particulièrement, il peut y avoir des moments un petit peu de peur, de crainte. On se demande, mais est-ce que mes enfants vont marcher avec le Seigneur? On voit à EMCI, c'est beaucoup de sujets de prière qu'on va recevoir. Prier pour mon fils, prier pour ma fille. Donc, c'est un vrai défi, c'est une vraie question. Comment faire pour que les jeunes puissent rester attachés au Seigneur et à l'Église? Et nous sommes donc, je vous l'ai dit, avec un monsieur aujourd'hui. Oh. Un monsieur, bonjour Yvan.
Bonjour Annabelle. Bonjour.
Ça va Yvan?
Ça va aller.
Ça va aller.
Curieusement bien. Aller, j'ai compris que j'étais dans un territoire hostile. Donc,
voilà. Ah, mais alors,
en minorité, mais pas hostile.
Grave en minorité.
Très honoré d'être à une table comme ça avec vous, mesdames.
Tu es le bienvenu. Merci. Nous ne te voulons pas de mal. Que nous bien.
Nous sommes bienveillantes.
Et donc, pour te présenter, même si je pense que la plupart des gens te connaissent, tu es donc Yvan, tu es pasteur à MLK, donc dans la région parisienne, à Créteil, particulièrement une église en pleine croissance, en pleine expansion. Et tu es aussi un papa. Tu es un papa, tu as deux enfants, dont...
Donc deux qui sont presque ados maintenant. Olivia en l'âge dur.
Ouais, un ado.
Ah, 14... La fille, elle est en avance, hein, elle va avoir bientôt 11. Ah, okay, c'est une d'accord. Fille à 11 ans.
Ouais, mais 14, ah, sur mais 14 18,
elle va avoir 11 ans, le gars il a 14. Ouais. Je tape les années difficiles.
Ouais, en tout cas, ces années où certaines questions.
Déjà des parents qui disent ah, je ressens la même souffrance, je ressens la même galère. Là.
Et d'autres disent ah, t'as rien vu encore.
Est-ce que tu serais un tout petit peu devant moi, ma sœur?
Bref, on n'en trouve pas. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, Yvan et Stéphanie, vous vous connaissez bien, vous au moins, tu vois, tu connais bien Stéphanie. C'est bon, tu te sens mieux.
Très bien, très bien.
Et je le disais avant l'émission, Yvan, tu penses beaucoup en dehors de la boîte. Et je trouve c'est intéressant aussi par rapport à la jeunesse, parce que je crois que dans nos églises, il y a quand même eu une tendance à continuer de faire les choses de la même façon quand nous-mêmes...
Avec des mauvais résultats.
Tu vois, souvent, parce que nous-mêmes, enfin, moi je dis nous-mêmes, pas moi, parce que j'ai la première génération de chrétiens, mais quelquefois, certains parents ont eux-mêmes vécu ces défis en étant plus jeunes, et puis, quelquefois, par manque de modèles, de repères, tu reproduis la même chose, en fait, et puis tes jeunes reproduisent le même parcours au niveau de leur foi, et comme tu dis, bon, voilà, les mêmes mauvais résultats.
Oui, parce que,
donc, il faut se poser des questions.
Juste un point de vue statistique, moi, à la base, j'étais pas que pasteur dans ma vie. Mmh. J'étais aussi professeur et je faisais aussi des statistiques sur la sociologie. Je sais qu'il y a plusieurs types de personnes qui nous regardent de différents continents, de différents pays. Mais il y a une caractéristique dans les églises qui est à peu près la même. C'est que le taux de décrochage de la foi est très élevé dans les églises de sensibilité évangélique et catholique. Mmh. C'est-à-dire que s'il y a deux sensibilités religieuses qui ont énormément de mal à transmettre la foi à leurs enfants, c'est toi, c'est moi, c'est nous, peut-être quelqu'un devant son écran. On n'a pas des très bons résultats. Donc, il faut juste qu'on se le dise une fois pour toutes, parce que c'est cette humilité qui nous permettra de dire, ok, Dieu, ok, c'est pas normal qu'on ait autant de pertes. Enfin, quand vous voyez, aujourd'hui, je parle de juste l'Église catholique, en Europe, alors c'est moins vrai en Afrique, c'est un peu moins vrai en Asie du Sud-Est ou aux États-Unis, c'est pareil. Hein.
Oui. Voilà.
Ils ont perdu, mes amis, mes frères catholiques, ils ont perdu plus de un tiers de pratiquants en l'espace de 10 ans. C'est une chute qui est vertigineuse. Mmh. Et j'avais, il y a quelque temps, je parlais à un couple de quinca, 50 ans, catholique, et disait, non seulement nos enfants ne sont plus là, mais nos petits-enfants, alors ils ne sont plus du tout. Mmh. Ils ont complètement perdu la foi. Oh, ben ça m'a touché, parce que tu voyais la souffrance. C'était dans un journal français, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a cette perte de temps, le transfert de la foi? Mmh. Alors on se dit, nous les évangéliques, on est meilleurs, parce que nous on croit à la conversion, le baptême, le Saint-Esprit, le feu, etc. Oui, on a des meilleurs résultats, parce qu'il y a beaucoup de personnes nouvelles qui rejoignent. Donc, l'évangélisation, le côté missionnaire de chacun d'entre nous fait que on gagne des âmes, comme diraient des chrétiens. Il y a des personnes qui, mais en vrai, on perd nos jeunes. Et on a pareil, plus d'un tiers, presque 40% des jeunes qui sont nés dans une famille chrétienne décrochent. Mmh. C'est énorme. Juste pour information, les juifs, ils sont à moins de 5%. Hein.
Ah ouais.
Moins de 5%. Mmh. Donc, on prend une claque dans la figure et on se dit, waouh. Les Juifs arrivent à instruire l'enfant dans la voie qu'ils veulent qu'il suive et ils s'en détournent pas. Mmh. Ben nous, on n'arrive pas bien.
Et comment t'expliques ça?
Ben on va en parler. Je ne vais pas monopoliser la parole.
Je te pose la question du coup.
Mais tous on veut savoir.
Ouais,
avec
des ouais mais alors, si j'avais tout compris déjà, je serais peut-être très orgueilleux. Et j'ai deux ados, ils ont voilà, bientôt 11-14. Je ne suis pas sûr de pouvoir moi-même bien réussir. Alors, parce que lorsque l'on est de sensibilité chrétienne comme ça, la démarche de foi est personnelle. Mmh. Il y a une phrase qui est super importante, c'est le pasteur Lévi Petrus. C'était le plus grand pasteur de la plus grande église d'Europe. C'était en Suède dans les années 50, 60, 70. Il dit cette phrase, pour nous les chrétiens, Dieu n'a que des enfants, il n'a pas de petits-enfants. Mmh. Faites une pause là-dessus. Il n'a que des enfants, pas des petits-enfants. C'est-à-dire que si on n'impose pas notre foi à l'enfant, mm-hmm. si l'enfant ne prend pas sa démarche personnelle de baptême, s'il ne fait pas, il n'est pas considéré comme. Mm-hmm. Okay. Si vous êtes musulman, vous n'avez pas ce problème-là. Si vous êtes juif, vous n'avez pas ce problème-là. L'enfant est, par génétique, par religion du groupe, automatiquement juif. Il est automatiquement musulman.
Ce n'est pas un choix.
Ben non, ce n'est pas un choix. Mm-hmm. Regardez ce qui se passe avec la charia dans les pays islamiques. Si l'enfant dit qu'il n'est pas musulman, dans une grande partie des pays du monde, il est au minimum chassé de sa famille, voire même, il risque la mort. Enfin, vous voyez tous les jours des choses, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Arabie Saoudite, des jeunes femmes qui, pour avoir osé regarder un jour une émission à table avec Annabelle, bonjour chez vous, etc., ont rencontré Jésus, elles risquent tout. Voilà.
Donc les musulmans... Donc, c'est un décrochage qui n'est pas basé sur des décisions de cœur non plus.
Ben, oui, mais en fait, c'est-à-dire que l'effet groupe, l'effet clan protège et préserve les croyances dans les deux grosses religions que sont le judaïsme et l'islam. Alors qu'on n'a pas ça, nous, dans le christianisme.
Mais il y a une différence quand tu dis « protège les croyances ». Et c'est ce qui fait la différence avec nous, les chrétiens, qui croient en Christ. C'est une décision, c'est une
personnelle.
Question de relation
personnelle.
Et non de religion. On le dit souvent que c'est une relation avec Jésus. Et c'est pour ça que c'est encore plus complexe, parce qu'on ne peut pas imposer la religion. Il faut que ça soit basé sur une décision d'avoir cette relation-là avec Jésus. Et c'est là qu'il faut changer un peu nos paradigmes et pas l'imposer. Moi aussi, je suis la première chrétienne dans ma famille, mais rendue à mes enfants, ils ne sont pas chrétiens parce que je suis chrétienne, tu vois. Fait que c'est là qu'il faut avoir des outils, Yvan, que tu vas nous partager pour comment on peut les inspirer à décider de vouloir cette relation-là avec Jésus, la plus importante décision de notre vie, n'est-ce pas? Mm-hmm.
Moi, je dirais peut-être aussi pour les parents, c'est d'accepter qu'à un moment donné, ton enfant est un inconverti.
Oui.
Et ça, je crois que c'est quelque chose, en tant que parent chrétien, c'est pas facile à accepter parce que t'as toute la notion de l'éternité, qu'est-ce qui va lui arriver, etc., etc. Et puis de se dire, j'ai tellement investi, j'ai prié pour mon enfant. C'est un vrai lâcher-prise, en fait, de te dire à un moment donné, mon enfant n'est pas sauvé. Mm-hmm. Mon enfant ne marche pas avec le Seigneur, n'a pas pris sa décision personnel et ce lâcher prise qui arrive à des âges différents t'abandonnes ton enfant en fait pour qu'il prenne cette décision et c'est là je pense où quelquefois en tant que parent on peut être maladroit et puis on peut malheureusement causer du tort parce que on peut être hyper envahissant dans la je te lâche prise mais je te garde parce que j'ai tellement peur pour toi en fait mais il y a un moment donné notre enfant il est pas sauvé et c'est pour ça qu'il doit faire il doit prendre sa propre décision mais pour prendre sa décision il y a un moment où il dépend pas de nous il dépend plus de nous et on le laisse et ça je pense que c'est assez dur ce moment-là
c'est tellement dur que je pense que beaucoup qui nous regardent et qui sont d'une famille plutôt évangélique. Des fois, ils disent, mais pourquoi les catholiques, ils font le baptême des enfants ? Mais d'où ça vient ? Ça vient de là. Ça vient de cette peur du lâcher-prise. En fait, les premiers disciples, les premiers chrétiens baptisés adultes, moi, je suis allé en Italie, le pourtour méditerranéen, toutes les églises construites entre le 2e, 3e, 4e siècle ont systématiquement des baptistères dans lesquels on peut étaler un adulte. Et tout d'un coup, à partir du 6e, 7e, il n'y a plus de baptistère. Il n'y a plus le baptême d'adultes et on baptise des enfants. Pourquoi ? Parce que c'était tellement insupportable pour les mamans de dire, dans la crainte, parce qu'avec ce verset, celui qui sera baptisé sera sauvé. Les mamans, elles ont mal compris le verset, elles avaient tellement peur, les papas aussi, je pense, qui se sont dit, purée, notre enfant, tu vois, ce risque, il va rater Dieu. Donc du coup, avant même qu'il choisisse, je le plouffe au cas où, comme ça c'est réglé. Mais ça va nous chercher loin, en fait. Ouais. Ça va nous chercher loin. Et il y avait des gens avant nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas, j'entends, mesdames, vous êtes la première génération dans votre famille. Moi, je n'y suis pas, d'accord. Je ne sais pas pour toi, Aurélie, mais...
Première génération.
Moi, je suis longue tradition. Et il y a toujours eu la trouille. C'est est-ce que la génération d'après va relever le flambeau que moi, j'ai porté moi-même et du coup, on a besoin de se sécuriser et on a créé. Et ça a été, du coup, ça a changé le sens du baptême, etc. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je crois qu'il faut une relation personnelle avec Dieu et Dieu ne s'impose pas. Et c'est là où il y a le lâcher prise que tu dis qui est tellement la clé. Mais après, il faut qu'on donne 2-3 trucs quand même pour...
Aider un petit peu quand même, on va aider un petit peu.
Vas-y.
Alors.
Ah maintenant tu veux bien.
Alors Stéphanie, elle a dit quelque chose d'important. Elle a dit le mot inspiration. Ouais. Alors qu'un musulman ou qu'un juif dirait transmission obligation, elle a dit inspiration. Et oui, du coup, en fait, si tu veux, il y a deux façons de conduire quelqu'un. Tu peux le faire conduire par la peur, par les règles, par la loi. Excusez-moi, mais ça s'appelle le judaïsme, ça s'appelle l'islam, la charia, c'est la loi de Dieu. Le judaïsme, la Torah, c'est la loi de Dieu. Donc, tu lui dis, fais ça et c'est réglé. D'accord ? Et nous, on n'est pas là-dedans parce qu'on est sous la grâce. Donc, la liberté. Donc, la liberté, c'est la prise de risque. Alors, juste par rapport à ça, il va falloir que donc, et c'est le danger des parents, renoncer à arriver avec les « tu dois », « il faut que », « viens avec moi », à « waouh, j'ai pas le droit à ce bâton. Donc, je vais devoir utiliser des aspects motivationnels. Et c'est là où...
Est-ce que l'argent s'en fait partie?
Tu commences avec les bonbons et tout. C'est... Je n'ai rien entendu. C'est pas ce qu'elle a voulu dire.
Moi, j'ai utilisé les beignes, quoi. On va à l'église, après on mange des beignes.
J'ai dit tous les coups sans permis
pour qu'ils viennent à l'église.
Tu sais une expression française, les beignes, c'est les coups.
Donuts, parce que les Français, vous parlez toujours les donuts, des gâteaux.
C'est ton enfant.
Décidément, moi,
je te donne une beigne si tu viens à l'église.
Mais c'est pas gagné. Tu la prends, par
exemple. L'intimidation.
Bon, un donut. Un gâteau. T'avais compris ça?
Non, mais de toute manière, c'est
si ça. Tu savais très bien que j'avais pas faire ça.
Mais ça fait mal à ton corps le donut aussi, donc c'est une belle. c'est intéressant tout ce que vous dites. Et effectivement, il va falloir être dans un mode qui va nous demander beaucoup plus d'efforts.
Oui.
Voilà, la vérité, c'est que si ton enfant il a pas le choix, t'as beaucoup moins de responsabilités. Et dans l'islam, c'est l'umma qui va gérer ton enfant, la communauté des croyants. Il est musulman et tous les musulmans élève ton enfant. Vous avez ça un petit peu en Afrique, dans certains pays d'Afrique. Je ne sais pas si quelqu'un nous regarde, mais tu as tout le village qui élève l'enfant. t'as toute la structure. Et du coup, t'as moins de pertes. Mais avec l'individualisme, où est-ce que l'enfant a le plus de mal à suivre? Ben, comme par hasard, Europe, mm-hmm. Amérique du Nord, dans tous les pays où la culture est hyper individualiste.
Moi, j'ai une question. Jusqu'à quel âge les enfants n'ont plus, ils n'ont pas le choix d'aller à l'église? Par exemple, quand ils ont 7-8 ans, bon, est-ce qu'ils ont le choix ou pas vraiment? On les amène à l'église.
Alors après, ça dépend comment tu commences à estimer une terme de majorité spirituelle. Alors juste pour info, à part, on dit l'enfant, il est inconverti, etc. Mais je crois qu'il est sauvé quand même quand il est petit, qu'il n'a pas, atteint l'âge de raison, d'accord? Ouais. On ne va pas faire peur aux parents.
Non.
Donc il est sauvé.
Il y a un moment
il est sauvé. Mais justement,
je donne pas d'âge.
C'est justement ça, c'est ça l'âge, c'est ça la réponse. C'est quand l'enfant, on considère qu'il est aussi en âge de réfléchir par lui-même. C'est important que dans toute cette période-là, il soit au contact de l'Évangile. Oui. Parce que comme il a un choix à faire, il faut quand même qu'on lui donne toutes les billes, oui, pour qu'il puisse faire le choix. Il faut qu'on lui donne toutes les armes pour pouvoir combattre, oui, le combat de la vie. Donc, et c'est là, en tant que maman, en tant que papa, c'est ta responsabilité. Oui, enfin, je veux dire, moi, l'enfant, il n'y a aucun jour de ma vie, j'ai voulu aller à l'école, hein. J'étais un enfant hyperactif, etc. Jamais, moi, Tom Sawyer, c'était mon rêve, quoi. C'était l'école buissonnière et partir loin. Donc, après, j'ai fini prof, tu vois. C'est comme une vengeance. Vous m'avez fait payer. Je vais vous faire payer ce que vous m'avez imposé. Mais voilà, ma mère, elle dit, attends, mon coco, t'es petit là, hein. Tu vas aller à l'école, hein. Et tu discutes pas. Même mon premier camp d'ado, parce que honnêtement, l'église, c'était vraiment inadapté. Nos églises sont très, globalement inadapté, ça donne pas envie à l'enfant. Donc en tant que parent, tu n'es pas aidé par le système de la foi. Et dans beaucoup d'églises, les enfants sont placés dans une espèce de salle obscure, sombre. Les adultes, c'est le peuple de Dieu, c'est vraiment la gloire, l'onction. L'enfant, lui, mais faut voir nos crèches, faut voir nos endroits dans les églises. Mais pardonne-nous Dieu. Pardonne-nous d'avoir aussi maltraité nos enfants. Des fois, les pasteurs pour enfants, bon, c'est inadapté, le discours est inadapté. On les oblige à écouter des prédications, des messages 45 minutes. Mais moi, tu me rends fou avec ça, 45 minutes. Donc, on force. Bah, on écœure. Donc, accompagne-le, mais tu n'as pas le droit de dire à l'enfant, tu dois, si toi, tu ne t'es pas plié en quatre pour lui donner l'envie de t'investir, repenser les choses, créer des colos. Ma première colo, je voulais pas y aller. Jusqu'à 15 ans, en vrai. Moi, jusqu'à 15 ans, on m'a forcé. Et à 15 ans, même, ma sœur, elle m'a inscrit. Elles avaient fait un gang avec ma mère, sans me dire. Elles ont pris un formulaire, un camp d'ado, 15 ans, quand j'ai appris qu'ils m'avaient mis l'été dans un groupe où je connaissais personne. Mais j'étais furieux.
Est-ce que tu allais en thérapie après?
J'ai fini pasteur. T'imagines?
Finalement,
par rapport à ce qu'on est en train de partager, moi je crois que la difficulté, parce que je crois quand même que les enfants reproduisent beaucoup ce qu'ils voient, et c'est même vrai, de façon inconsciente. Donc un adulte même qui reprochait à ses parents plusieurs choses, il arrive parent à son tour et force est quand même de constater qu'il reproduit des schémas que lui-même il a reproché quand il était plus jeune. Et la difficulté au niveau de ce qu'on peut appeler la transmission, je pense que c'est le fait que certains parents eux-mêmes ils savent pas quoi transmettre quelque part. Je dis transmettre pas dans le sens d'imposer, hein, transmettre dans le sens juste que ce que tu es communique des valeurs qui poussent l'enfant à dire son propre oui à Dieu, ce que tu vis, la façon dont tu te présentes dans les yeux de ton enfant, qui fait que demain il dit « Ah, mais moi je veux être comme maman. » Et maman était une femme de foi, je veux être cette personne-là. Et je crois que c'est difficile parce que tout le monde, comme on dit chez nous en Afrique, se cherche quelque part. Tout le monde cherche aussi à plaire à Dieu, à grandir spirituellement, etc. Et dans le processus, on se dit devant nos enfants, on doit paraître quelqu'un qui sait, quelqu'un que s'il pose une question, on doit pouvoir répondre, on doit pouvoir le diriger, on doit pouvoir en tout cas lui apporter des choses automatiquement. Et je crois que ça rend parfois les choses difficiles parce que, en fait, devant ton enfant, tu dois paraître comme ça, mais en toi-même, tu sais que t'en es pas là, tout simplement.
Et l'enfant,
parce que
il déteste l'hypocrisie. L'ado, il déteste l'hypocrisie. S'il y a un décalage entre ce que tu fais et ce que tu dis,
et moi, je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui joue beaucoup dans la balance parce que les enfants vont reproduire ces choses. Et plusieurs jeunes qui ont quitté les églises, ils vont te dire « Oui, mais toi, tu vas à l'église chaque dimanche, mais regarde ce que tu fais. » Et ça, je crois qu'il faut, il faut qu'on ait une solution aussi concrète par rapport à ça, si on parle d'influencer la jeunesse pour pouvoir accepter le Seigneur à leur tour.
Il faut accepter nos fragilités. Mm-hmm. Moi, je trouve quelque chose d'extraordinaire. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, pourquoi justement les juifs, les mamans juives, les papas juifs, ils arrivent à avoir moins de 5% de pertes? Alors, il y a la communauté, etc. Mais est-ce que vous avez vu comment ils enseignent l'enfant dans la voie qu'il doit suivre? Une grande différence entre la façon de d'amener l'enfant à la foi dans le judaïsme et d'amener l'enfant à la foi dans, chez les évangéliques, par exemple, ou chez les catholiques. Moi, je suis allé, j'ai mangé un repas de Pessah avec des amis juifs. Mm-hmm. Ben, l'enfant, il est partout. Il y a deux choses qui ont caractérisé le repas, l'enfant et l'histoire. Mm-hmm. L'histoire et l'enfant. Et l'histoire, le storytelling, la vérité des histoires, c'est ça qui nous touche le plus. Regardez l'Ancien Testament, c'est rempli d'histoires. Et en fait, par exemple, l'enfant, il vient, il lit la Torah. C'est pas papa qui lit, c'est pas maman qui lit. C'est génial, ça. Mm-hmm. Au lieu de dire, hey, tais-toi, chute l'enfant là, tais-toi, va au coin là-bas. Les grands là, ils vont faire la chose importante, vous allez faire des bêtises. Regarde, prends ta tablette. L'inverse chez les Juifs, ils vont tout de suite mettre l'enfant au cœur de la foi. Ils vont lui demander de lire le texte. Ils vont tous applaudir, ils vont dire bravo, c'est extraordinaire. Donc l'enfant, hop, mm-hmm. il le monte au niveau de l'adulte, très vite, dès la bar mitzvah, il est monté comme un adulte. Nous, c'est encore un bébé. Non, eux, ils disent, c'est un être qui est capable de connecter avec Dieu. Et ils l'intègrent, première chose. Donc dans nos églises, est-ce qu'on est capable de laisser de la place à des gars, à des filles de 13 ans? Et qu'ils arrêtent de dire, bah non, tout bien, c'est le pasteur, après c'est la leader de louange, après ça, etc. Non, comment on intègre? Comment on les met en charge? L'ado, il a besoin de dire, j'ai quelque chose à dire. Vous voulez pas m'entendre? Alors je vais aller le dire avec les autres du monde. Mais si vous me laissez dire, j'ai des choses à faire. Donc, empower people. Vraiment, donnez-leur la capacité de faire des choses. Valorisez-les. Et dernier point, après je vous laisse aussi réagir, mesdames, mais les massacrés, ceux qui sont massacrés dans nos églises, c'est les jeunes gars. Mm-hmm. On va pas se mentir. Jusqu'à 18 ans, on arrive à gérer les filles. Mm. C'est-à-dire que vous avez un taux de transmission de la foi jusqu'à 18 ans chez la femme qui est tout à fait correct dans les églises catholiques, qui est tout à fait correct dans les églises évangéliques. On doit être à un taux de reproduction à 80-90%. Voilà, on a un peu moins bon, mais on n'a pas décroché.
Parce qu'il y a plus de femmes dans les églises?
Façon de faire, c'est plus adapté pour les filles dans nos églises que pour les garçons.
Oui, mais la question, c'est est-ce qu'il y a plus de femmes? Moi, je te dis juste des statistiques. Oui, mais
est-ce que ce résultat est là?
60.
Plus de femmes dans l'église.
C'est la poule et l'œuf. 72,3% de femmes à MLK. En présentiel. On est une église remplie de jeunes, avec une moyenne d'âge à 25 ans. D'accord? 72%, 27% d'hommes. Je dis, mais c'est dramatique, où sont les hommes? Où sont les hommes? Et où sont les hommes? Ils sont partis entre 12 et 18 ans. Mm-hmm. Et donc, c'est bien là où on défaille. J'en appelle à un big bang, à une remise en question de tous les pasteurs, de tous les organisateurs de réunions spirituelles. On est nuls. Il faut juste qu'on ait le quoi pour les gars. Pourquoi? Parce qu'on leur met une pression. On leur dit, regarde, on prêche, et c'est bien qu'on prêche sur les œuvres de la chair, on parlait de pornographie, le gars il dit, ah je suis foutu, je suis un mauvais chrétien. Alors que le petit juif, il ne va pas être challengé comme ça. Le petit juif, on va lui dire, regarde, lis-nous la parole de Dieu, on va t'honorer, on est fiers de la foi. Nous le chrétien, on va lui dire, si tu mens, si tu continues, mais c'est que des choses négatives. Et on a beaucoup de culpabilisation. Et nos gars, ils se disent, mais moi, quand je suis à l'école, au collège, au lycée, en secondaire pour vous, etc., ben je suis pas aussi mauvais qu'à l'église. Mm-hmm. Et du coup, on casse tellement nos gars, et les plus anciens prennent tellement de place, et on valorise pas le modèle. On les valorise pas assez. On a un vrai travail. Moi, je suis. Et puis on leur demande. Quoi. Mon frère, il me disait ça, mais honnêtement, Yvan, dis la vérité. Quand t'es un gars dans une église et que tu veux servir Dieu, on te donne comme objectif soit devenir leader de louange pour peu que tu chantes comme une casserole, tu sais que c'est foutu. Après, prédicateur, mais tout le monde n'a pas envie de parler. Et puis tout le monde, tu fais des statistiques. Je veux dire, tu vois bien, il y en a un qui parle, il y a 199 qui écoutent. Donc t'as pas de débouché dans cette histoire. Tu vas pas. Et on valorise pas les autres choses. On valorise pas le foot. On valorise pas le sport. On dit le sport, c'est en concurrence avec l'église. Donc tout ce qu'ils aiment faire, c'est comme s'ils étaient des mauvais chrétiens. On va leur dire, attention, mets Dieu en premier, oui, mais on oppose, faire du business. Tout, on va lui dire, attention, l'amour de l'argent, c'est dangereux, etc. Ben, le gars, il dit, ben, ça ne me convient pas, là. Je n'ai pas de place pour moi. Et on a des hommes qui partent, et derrière, on a des filles qui pleurent. Mm-hmm. Parce que les femmes, elles sont victimes de froid, du coup. Parce que quand, une fois que les hommes sont partis, elles se disent, mais ils sont où? Ils sont où, les hommes? Où est mon mari? Où est mon futur conjoint? Il est où? Je ne comprends pas. Ben on a tout fait pour le chasser, et on pleure derrière. Et moi, je demande pardon à Dieu pour toutes les mauvaises gestions que j'ai faites, toutes les fois où je n'ai pas été adapté aux jeunes gars. À MLK, on est en train de se remettre en question. Je ne dis pas qu'on a trouvé la solution, mais j'ai arrêté de faire la réunion unique où il y en a un qui cause, un qui fait la louange et les autres qui écoutent. On a commencé à faire des districts.
C'est chouette, ça. Raconte-le, Yvan, parce que c'est très, très... Quand je suis allée, tu vois les jeunes partout, ils prennent des photos, ils sont dans toutes les sphères de l'Église. Et moi, je pense que c'est une clé pour garder nos jeunes, c'est de les impliquer le plus rapidement possible dans l'Église, qu'ils trouvent leurs amis, là, qu'ils puissent être impliqués. Mais raconte un peu.
Non, mais par exemple, tu vois, là, on a créé un groupe de futurs YouTubers dans l'Église MLK. Donc, et là, tu vois, tu leur dis, faites des vidéos, l'Église va investir dans le matériel. Si vous faites des vues, on va faire un espèce de The Voice du meilleur YouTube. Fais du truc. Il y en a qui sont du foot. On va leur dire, faites du foot. On fait un temps spirituel. Je mets un leader dans le groupe, un adulte, qui commence en disant, voilà, on va faire du sport et de la foi. Il y a un temps spirituel, etc. Et puis après, on s'éclate, on fait du sport. On valorise corps, âme et esprit. Parce que là, du coup, t'as du monde. Mais il y en a d'autres, c'est plus les arts, le dessin. Un autre, ça va être arrêter de faire une espèce de chemin unique. Mm-hmm. Il faut repenser l'Église. Comment nos adogas peuvent se sentir, trouver un gang, une clique, quelqu'un avec qui ils se sentent bien. Mm-hmm. Parce que si tu ne le fais pas, ils iront ailleurs le chercher.
Et pour les parents, du coup, comment est-ce que tu encourages, toi, les parents, à se positionner, surtout par rapport aux garçons?
Le parent, il n'est pas seul. Hein. Nous, on a beaucoup de mamans célibataires, en plus. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le modèle du père. Donc, il va projeter encore plus le modèle du pasteur. Mm-hmm. Donc, il risque d'être... Comme il idéalise le pasteur, etc., le risque d'échec est encore plus grand. Alors, les parents, pensez Église, mais pensez en dehors de l'Église. C'est-à-dire, ne mettez pas que la foi dans l'Église. Mm-hmm. C'est-à-dire, ne lui dites pas, c'est ton niveau spirituel est déterminé par le nombre de dimanches que tu es allé à l'Église. Si vous trouvez des activités périphériques chrétiennes, faites-le à fond. Vous êtes prêt à lui payer des cours de piano? D'accord, vous êtes prêt à vous bouger pour l'amener dans un camp de jeunesse chrétien. Ça va vous... Ouais, mais c'est cher. Ok, il y a un moment, tu choisis. Arrête de pleurer pour ce qui se convertit. Si t'es pas capable de sortir les francs, les dollars, les euros pour y aller. Ben écoute, il y a un moment, faut savoir. Hein. Là où est ton argent, là aussi est ton cœur. Hein. Donc tu payes pour ton gars et oui. Et puis il y a pas de garantie derrière. Tu investis dans des activités et surtout tu favorises sa rencontre avec des amis chrétiens, chrétiennes. Tu valorises ça. Mm-hmm. Tu valorises ça. Tu lâches à ce moment-là en disant, OK, tu es avec des amis chrétiens. C'est formidable. Vas-y, fonce, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils seront des petits anges. Hein.
Mais il y a ce côté-là aussi. C'est que quand on met l'enfant dans un environnement chrétien, on peut vite penser que, ben oui, il sera un petit ange. Et le parent aura... Le côté culpabilité peut venir même avec la comparaison. Mais regarde tes amis, eux, ils ne se comportent pas aussi mal. Regarde comment toi tu fais, etc. Et ça aussi, ça vient casser quelque part ce qu'on veut fonder, ce qu'on veut bâtir au niveau de l'enfant. Et je crois que c'est important d'agresser ça aussi. Ce n'est pas parce qu'un enfant même va à l'église que ça devient un enfant qui ne peut plus faire des bêtises, qui ne peut plus faire des mauvaises choses, etc. Ça fait partie de la vie de l'enfant. Il faut trouver la façon mais de l'accompagner pour que ça ne demeure pas dans sa vie. Mais il ne faut pas commencer à... c'est pas normal que tu fasses ça alors que tes amis ou le fait qu'on t'a enseigné telle chose, etc. Je crois que ça aussi, ça balance quand même.
Et ça balance, mais aussi, c'est que en fait, on croit qu'on sait ce que font nos enfants. cette voix.
Parle, ma sœur, dis la vérité.
Une bonne femme de sagesse, si c'est vrai. Parce que, et le problème, c'est parce que souvent, on va leur mettre des standards que nous, on s'impose à nous. Donc, il faut aller à l'église, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, pour nous plaire un peu...
Lire ta Bible tant de minutes, tant de chapitres.
Et où on est conti, on est conti. Donc, pour nous plaire, pour pas que ce soit toujours mon lâche-canne dans la maison, ils vont dire qu'ils le font. Mais finalement, quand t'as le dos tourné, ils font leur vie. Tu vois, c'est plus ils avancent en âge. Et le problème, moi, je vais parler pour moi, où ça a été difficile, c'est que des fois, avec toutes nos interdictions, on a brisé la communication. Mm-hmm. Puis après ça, tu dis, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Mm-hmm. Ben, je te l'ai pas dit parce que tu allais me dire, il faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça. Donc, à la partie... Mais moi, si c'était à faire, il y a des choses que... Je me dis, il faut garder la communication ouverte, puis de dire, ils sont en train d'écrire un témoignage, puis ce qu'on a semé, on va le récolter éventuellement. Mais parce qu'on brise cette communication-là, ben, ils nous disent rien. Et quand ils nous disent rien, ben, ils font des choses dans notre... qu'on apprend plus tard, puis et là, on n'était pas là pour aider. Donc, c'est pas facile, mais juste de dire, peut-être ça nous stresse un peu de dire, je sais pas ce qu'il fait, mais ou je suis pas d'accord, mais si je peux lui parler, puis il peut se parler l'un et l'autre, ben ça aide à... Et
garder aussi les frustrations, tu vois. Parce que c'est dur pour un parent de regarder son enfant et d'arriver à la conclusion que, oups, il est pas exactement là où je voulais qu'il soit. C'est comme si c'est un échec pour ce parent-là.
Ouais, mais si tu prononces des choses négatives sur ton enfant, tu récolteras du négatif derrière.
Mm-hmm, c'est ça.
Surtout pour les gars. Hein. Mm-hmm. Alors, surtout pour les gars. Tu veux vraiment qu'un gars devienne mauvais, dis-lui qu'il est mauvais. Mm-hmm. Je peux te dire une chose, je te prophétise que tu vas réussir à faire exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il va être mauvais à la fin.
Mm-hmm.
Donc, c'est génial ce que tu dis, Aurélie. Mais maman, papa, tais-toi quand t'as envie d'exploser.
Mm-hmm.
Ça, c'est ton boulot de travailler sur ton gars.
Mm-hmm.
Et je sais, moi, maman, elle est... Tu vois, elle avait des attentes très élevées envers moi, envers tous mes enfants, envers tous mes frères et sœurs. Et avec mes enfants aujourd'hui, avec mes petits-enfants. Donc, elle a des attentes élevées. Maman a des attentes. Voilà. Mais le moment où elle m'a plus aidé, c'est un moment où elle n'a pas fait exprès. Elle n'a pas fait en stratégie. C'est un moment où elle est très mal. Elle allait très, très mal. Elle est en dépression. Elle était au bout du trou.
Du coup, elle n'avait plus la force.
Eh non. Et là, elle avait plus... Elle était tellement en train de se noyer elle-même. Qu'elle me dit, Yvan, là, c'était un moment de dépression. Elle était en dépression, en fait. Et puis l'église, ça explosait de tous les sens. Et elle m'a dit, Yvan, donne-moi une parole de Dieu, parce que là, je sens que je vais mourir. Alors, tu vois, le truc, c'est pas terrible. C'est pas une bonne stratégie, toi. Et ben, en fait, moi, je suis arrivé. Du coup, j'ai lu ma Bible. J'ai lu ma Bible, pas comme... Vas-y, lis ta Bible. Je suis dit...
Faut que j'aille une maman.
Oh, punaise, là, faut lire. Du coup, j'ai lu ma Bible. Et je suis tombé, tu vois, sur un passage. Et j'ai lu le passage à ma mère. Et ma mère, tu vois, j'ai vu le visage de ma mère qui est passé des larmes à la paix, du stress à la confiance. L'Éternel, et, tu vois, est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Son frère venait de la pourrir, de lui envoyer un message horrible. Puis elle dit, si, voilà, que peut me faire un homme? Tu sais, c'est le... Oh, elle me dit, c'est une parole de Dieu que tu viens de me donner. Ce jour-là, je suis devenu pasteur. mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai vu tellement dans ses yeux de la reconnaissance, de la fierté. Du coup, je me suis dit, mais c'est ça que je veux être. Je veux être un enfant qui rend sa maman heureuse. Et on l'a tous, soit. Et ton enfant, même s'il te dit non, 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 en vrai, il veut que tu sois bien, comme toi aussi. Donc allez chercher, c'est beau ça, tu vois. Va chercher chez l'enfant ce que tu peux valoriser.
Mm-hmm.
Mm-hmm,
c'est
ça. Ça demande un effort, des fois. Moi, ma femme, elle me dit, arrête de dire ce que tu dis à Ethan. T'es trop négatif, Yvan. Je dis, c'est vrai, t'as raison. Donc, je confesse mes péchés, faites pas mes mêmes bêtises, je vais valoriser mon fils davantage.
Mm-hmm. Oui, puis l'authenticité, comme on disait, c'est être authentique. Des fois, toi, ta mère, elle s'est montrée vulnérable.
C'est ça.
Et des fois, comme parents, on veut juste montrer qu'on est chrétien, on est fort, et on vit des moments difficiles. Et je pense que ça touche les enfants quand on se dit, ben moi aussi...
Surtout l'ado.
Moi aussi, à cette période... Oui, c'est vrai que moi, j'ai un regard plus sur des jeunes adultes, ados, là, mais de dire à tes enfants, ben prie pour moi parce que c'est difficile en ce moment. Ils savent que tu aimes Dieu. Ça fait 15 ans que tu leur dis que tu aimes Dieu. Mais de leur dire de façon authentique, de dire, ben j'aurais besoin. Et c'est vrai que ça suscite ce désir-là de dire, oh, mais faut que Dieu nous aide, là, on a besoin, parce que maman a besoin ou papa a besoin. Et d'être authentique, c'est quand on n'est pas authentique que le message et le messager, ça,
Il y a un clash, là. Donc, c'est pour ça, de, même dans la prédication, mais avec nos enfants, d'être le plus vrai. Ça ne veut pas dire qu'on raconte toute notre vie, là. Je ne dis pas que c'est nos potes, puis on tu sais, il y a des moments où on se tient, vous comprenez. Mais d'être vulnérable, parfois, je pense que c'est, ça touche aussi.
En fait, il y a des saisons. Oui. Quand il est enfant, quand il a moins de 10 ans, tu vois, tu ne vas pas le mettre en charge, tu vas le faire exploser, tu vois. Mais quand il devient ado, ben là, il passe du statut de déséquilibré où je sais et tu sais pas à et si on apprenait ensemble. Ah là, si tu arrives à faire ça, c'est incroyable. Et progressivement, il est censé te rattraper parce que quand il arrivera adulte, c'est quelqu'un comme toi, hein. Mm-hmm. Que tu le veuilles ou non, il sera à ton niveau, hein.
Oui, mais aussi, c'est que le piège, c'est que souvent, les jeunes, quand ils vont regarder, même les plus petits, ils vont regarder les parents, ils vont dire c'est facile pour vous d'avoir la foi. Moi, c'est difficile. Et quand ils te racontent, ils arrivent où tu dis, non, c'est pas si facile. Moi aussi, c'est des choix que j'ai à faire à tous les jours. Fait que c'est comme ça aller. Des fois, c'est comme, eux, c'est facile, moi, c'est difficile. Mm-hmm. Puis quand ils arrivent à te voir, non, c'est pas si facile, là, c'est comme, c'est pas facile pour eux aussi. Mm-hmm. Ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin. Mm-hmm. Mais je sais pas, il y a une communication de la foi qui change
c'est
un
ça.
Peu.
Mais les parents ont peut-être peur aussi, quelque part. Et c'est cette peur-là qu'il faut travailler. La peur de ce que l'enfant soit au même niveau que moi, par exemple. C'est quelque chose que, c'est dur pour un parent d'accepter que mon enfant est au même niveau que moi. Parce que t'es le parent, tout simplement, et qu'il y a quand même une hiérarchie à respecter. Et aussi, le fait que les enfants, parfois, vont faire des crises et qu'ils vont utiliser des bonnes choses qui vont venir affecter le cœur du parent. Moi, je sais que quand un enfant est en crise, hein, surtout à l'adolescence, mais il dit plein de trucs qui font mal. Du coup, le fait de l'avoir mis à ton niveau, plus ou moins, et qu'un jour, quand il fait sa crise, ça te retombe dans la figure, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être difficile à gérer quelque part, parce que...
Mais après, quand tu dis mettre au
même niveau... À même niveau, non, il y a une sorte d'autorité qui est quand même là.
Le parent reste parent. Mais c'est que, ceci dit, il y a cet échange et cet enseignement aussi commun dans la foi. Comme, tu sais, Atom disait à la Pentecôte, à un moment donné, ton enfant, c'est ton frère aussi. C'est ton frère et ta sœur dans la foi. Donc, il a le même Dieu, il a la même parole, il a le même Saint-Esprit. Et là où toi, quelquefois, tu vas peut-être faiblir, tu vas avoir un écart de conduite, un écart de langage ou un petit moment d'hypocrisie, ton enfant qui est ton frère ou ta sœur va dire « Mais attends, là t'as dit ça, mais c'est pas vrai, mais t'as menti » et qui te met face à la parole en fait. Ça, c'est les moments où ton enfant est ton frère ou ta sœur. Et moi, je dis souvent, les enfants ont le ministère de la vérité. Franchement, si tu sais pas, si tu te connais pas, demande à ton enfant, décris-moi, dis-moi, est-ce que tu penses que je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne? Ton enfant, il va te le dire.
Tu vois, là, pour faire la boucle par rapport à ce qu'on a eu au début, tu vois, Dieu n'a, Lévi Pétrus, Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Si donc, ça veut dire que toi, t'es un enfant. Et donc, ton enfant, c'est pas ton enfant, c'est ton frère. C'est exactement ça. Donc, on les met dans une incohérence absolue. On leur dit à la fois qu'ils doivent choisir individuellement, mais qu'ils ne sont jamais à notre niveau. S'ils sont libres, c'est qu'ils sont comme nous au bout d'un moment. Donc, on doit repenser notre foi. Parce que plus vite que dans les autres religions, notre enfant doit être notre égal au bout d'un moment. Et ça, c'est notre orgueil qui nous bloque, parce qu'on n'a pas envie de montrer qu'on est fragile, on n'a pas envie de montrer qu'on est machin, on a envie de garder la domination. Et il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire l'enfant va aller plus loin que toi, et plus vite tu l'intègres dans cela, moins tu vas le bloquer. Ouais. Je ne savais pas ce qu'Atom ça a dit, c'est génial, c'est génial. C'est intègre-le dans ta bataille.
Il parlait d'authenticité, mais aussi de vérité. Souvent, comme parents, des fois, on va répéter des choses qu'on entend. Moi, quand je me suis convertie, j'avais 15 ans, j'allais à l'église, le pasteur, il disait des trucs, surtout au niveau, par exemple, de la science. Tu sais que tu parlais aux États-Unis, mais la plupart des chrétiens, des jeunes qui sont enseignés à l'église, lorsqu'ils arrivent à l'université, ils lâchent la foi parce que ce qu'ils ont appris dans certaines écoles du dimanche, ça ne correspond pas à ce
qu'on m'a manipulé.
Un peu. Et même des fois, comme parents, on sert du réchauffé. Tu vois. Il faut retourner à la Bible et avoir des vrais... Parce qu'eux, sur eux, ils googlent, il y a des YouTubers, des influenceurs, ils en ont tout plein, qui disent des choses, des fois, un peu bizarres. Mais des fois, il y a des choses qui sont... Tu googles certaines choses et des fois, nos messages sont incohérents. Donc, l'enfant, quand ce que tu dis ou ce qu'ils apprennent à l'église, c'est incohérent, puis ce qu'ils vont chercher... Aujourd'hui, ils ont accès à plein d'informations, là, ils balancent. En fait... ça, pour une incohérence, on va dire toute la foi est incohérente. Mm-hmm. Et des fois, comme parent, il y a aussi une responsabilité d'élever notre jeu d'un cran puis à aller chercher des réponses intelligentes et pas mm-hmm. dire des trucs ridicules sur un sujet important parce qu'ils vont dire, ben c'est tout leur truc est nul. Mm-hmm. Sur une seule chose nulle, tu fais passer tout le christianisme comme nul. Et donc ça, c'est exactement. Important d'être authentique, mais aussi avoir des vérités, tu sais, de dire... Puis des fois, de dire, je n'ai pas la réponse. Pourquoi telle n'est pas guérie ou pourquoi telle-ci ou pourquoi... Des fois, on sert du tout cuit. Mm-hmm. Et l'enfant ou le jeune, il dit, ah, marche pas son affaire. Et là, il va mm-hmm. balancer tout. Donc ça, c'est important.
Toute ta crédibilité.
Ouais. Mm-hmm. Ouais.
Ça, c'est un point important pour terminer, Stéphanie, merci de le dire. C'est de savoir dire aussi, je ne sais pas.
Oui.
Parce qu'il y a des choses... Il y a des choses qu'on ne sait réellement pas. Et aussi des choses, ben, l'enfant va le découvrir, doit le découvrir. Et quand je dis l'enfant, c'est l'enfant, l'ado, le jeune ado, le jeune adulte, dans sa relation aussi avec le Seigneur. Et quelquefois, ben, on a tellement, on croit qu'en tant que parent, notre mission, c'est de répondre à toutes les questions de l'enfant. Mais en fait, on devient un intermédiaire. Et puis, quelquefois, on n'est pas un bon intermédiaire parce que nous-mêmes, on a atteint des compréhensions, on a nos filtres. Donc, et on sert non seulement peut-être du réchauffé, mais du faux et de quelque chose qui n'est pas approprié pour l'enfant et de dire, bah, écoute, c'est la meilleure, comme un peu ta maman a fait dans cette situation. C'est, bah, je ne sais pas, demande-toi au Seigneur.
Demandons. Fais une équipe avec ton enfant. Ouais. Fais une équipe avec ton gars de 14 ans.
Mmh. Ouais, c'est très bien. Et aussi, pour terminer, bah de comme on parlait de la communication, c'est qu'il y a des questions qui sont difficiles et quelquefois, bah, en tant que parent, on fuit ces questions difficiles parce que c'est le malaise, parce que la question difficile, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de vivre ? Et du coup, est-ce qu'on a envie de vivre ça et de tout de suite remettre la loi, remettre les règles, bah, ça nous sécurise. Mais c'est une grande sécurité pour l'enfant aussi de se dire, je peux poser toutes les questions, je peux challenger Jésus. Ok, tu m'en as parlé depuis que je suis enfant, mais maintenant, bah, j'ai besoin de te poser certaines questions. Et ça ne veut pas dire que notre enfant ne croit pas, mais ça veut dire qu'il a besoin de se poser ces questions. Et c'est signe, je pense, bah, d'une foi qui va être saine. Un enfant qui s'est posé des questions, c'est un enfant qui n'a pas été, on ne lui a pas joué dans la tête. Ça. Et puis qu'à 20 ans, il se réveille, mais attends, mais en fait, je n'ai jamais eu le droit de penser, je n'ai jamais eu le droit de réfléchir. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je crois. Donc, c'est bon que les enfants puissent poser les questions et qu'ils nous challengent. Et comme tu l'as dit, bah, il faut aussi, nous, quelquefois, monter notre jeu d'un cran et puis écouter l'émission de la table sur le Bing Bang pour savoir de quoi il s'agit vraiment. Ça va, Yvan, t'as survécu parce que, bah, écoute, on a terminé.
Ah,
c'est passé vite, quand même.
C'est tellement vite, en bonne compagnie.
C'est passé vite.
Très bien.
Mais merci, Yvan. Merci d'être venu.
Plaisir.
Et puis, écoute, que Dieu te bénisse avec tes enfants.
Bon courage.
On va prier pour toi.
Amen. Et rendez-vous au jugement dernier, on verra ce que j'aurai donné.
Ils sont mignons comme tout. Ils sont super mignons. Je suis d'accord avec Aurélie, ça va bien se passer.
On se dit à mercredi. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.